C'est lundi, donc c'est le jour où on reçoit Nancy Boudria, directrice générale de Voix et solidarité des aidants naturels Vallée de la Gatineau. Nancy, bonjour.
Bonjour Sheila, ça va bien?
Très bien, merci.
Oui.
Aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu surprenant. Nancy, on va parler du mensonge et du mensonge thérapeutique, parce qu'un mensonge, ça peut avoir, dans le fond, ça peut avoir de bons côtés, et c'est ce que tu vas nous expliquer aujourd'hui, puis surtout dans quelles circonstances on devrait se prêter à cet exercice-là.
Oui, puis aussi, c'est... faut se le dire que les proches aidants, souvent, vont ressentir de la culpabilité face au mensonge. Parce qu'on sait, le mot mensonge est péjoratif. Hein? C'est quelque chose qui vient nous dire que c'est pas bien, que ça vient contre nos valeurs. Fait que veut pas d'emblée, quand on dit mensonge, ça vient nous fracasser un peu en dedans, mais oui. C'est vraiment un peu recommandé, ben c'est recommandé justement à certaines occasions de pouvoir dire un mensonge qu'on appelle le mensonge thérapeutique. C'est un mensonge, le mensonge thérapeutique, on va le voir beaucoup chez les personnes qui accompagnent la maladie de maladie d'Alzheimer, les maladies en perte cognitive. Mmh. Ou souvent, quand on va faire l'annonce d'une vérité, l'annonce d'une raison X, que la personne va vraiment se désorganiser, va tomber dans des émotions négatives, va avoir des cris, des pleurs. Tu sais que c'est vraiment des émotions qu'on veut pas aller. Mais il y a certaines situations, comme tu disais tantôt, que oui, il est recommandé et que non, il n'est pas recommandé. Le mensonge thérapeutique, souvent, on va le voir, tu sais, pour des petites choses, là, quand, mettons, quelqu'un nous demande « Est-ce qu'un tel va venir me voir aujourd'hui? » Mais tu sais, souvent, quand on ne connaît pas la réponse, au lieu de dire « Non, je ne penserais pas qu'il vienne », tout ça, puis de lui créer des faux espoirs, mm-hmm. Tu sais, mais ce n'est pas vraiment de lui créer des faux espoirs, de lui dire la vérité qu'on ne le sait pas. Mais des fois, souvent, on va juste leur dire, je le sais pas, il va peut-être venir plus tard, tu sais, c'est pas de créer des faux espoirs, là, c'est juste de pouvoir dire que probablement qu'il va passer, puis à ce moment-là, le proche aidant ne se sent pas coupable, parce que dans le fond, il fait juste lui verbaliser d'une autre façon, mais quand on parle d'un mensonge thérapeutique, où on peut annoncer un décès, quand on annonce un décès à une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer ou un prochain placement qui va lui être desservi, quand on voit que l'annonce de ça la désorganise, la rend instable, qui va vraiment causer encore plus de pertes cognitives parce qu'on vient monter son niveau d'anxiété, ben à ce moment-là, ben c'est peut-être bon, oui, de lui dire la vérité pour les premières fois, mais quand on voit qu'on a tout essayé au niveau de la communication, au niveau du comportement, d'aller valider ses émotions et que ça lui fait encore cet effet-là, comme si c'était la première fois qu'on lui annonce, ben à ce moment-là, peut-être qu'on peut juste soit pas en parler ou de dire des petits mensonges qu'on appelle des mensonges thérapeutiques. Mais ce n'est pas dans le but de mal faire, vraiment. Il faut que les proches aidants prennent en conscience que ce n'est vraiment pas dans le but de mal faire. C'est vraiment dans le bien de la personne.
Au contraire, c'est pour ne pas indisposer la personne, parce qu'on sait que les personnes qui ont un déficit cognitif, les émotions négatives vont demeurer pendant longtemps avec la personne. La personne qui fait un saut, par exemple, c'est pendant des heures qu'elle va ressentir ce mal là d'avoir fait un saut, hein. c'est pas comme les personnes qui n'ont pas un déficit cognitif, là. C'est important de se souvenir de ça.
Oui, exactement, parce qu'on peut voir, mettons, dans une histoire que j'ai lue, c'était une femme qui reste au Québec, qui habite au Québec, mais que là, elle a des citrons, puis son mari lui dit « c'est moi qui est allée les cueillir dans le jardin ». Mais sachant bien qu'on est au Québec, que les citrons poussent pas ici, elle lui a dit « Ah oui, oui, c'est vrai, puis regarde, je t'ai fait une belle tarte au citron avec, tout ça. » Mais pourquoi aller confronter la personne?
C'est pas nécessaire.
Cette personne-là, à ce moment-là, elle est dans sa réalité et cette réalité-là, elle le vit. Fait que, tu sais, pourquoi aller confronter? Fait que ça, on appelle tout ça des mensonges blancs, des mensonges thérapeutiques, quand que c'est des nouvelles un peu plus, mettons, d'envergure, comme un placement ou un décès ou tout ça.
En gros, si le mensonge fait mal à personne, c'est un peu... ça peut amener juste du bien à la personne justement à l'aider. Là.
Oui, justement. Et aussi, c'est que les proches aidants, souvent, ils vont venir nous consulter justement quand ils ressentent ça, ces émotions-là, parce qu'ils se demandent justement, est-ce que c'est normal? Est-ce que je fais bien? Mm-hmm. C'est quoi que je devrais faire? Puis justement, c'est qu'ils viennent nous en parler. Puis nous, on est là justement pour ça, parce que c'est important quand on accompagne une personne qui est atteinte de maladie cognitive, mm-hmm. de bien l'accompagner justement. Et le mensonge médical aussi, thérapeutique médical, où souvent c'est le médecin lui-même qui va décider de ne pas annoncer à la personne atteinte son diagnostic parce qu'il le sait, parce que c'est pas quelque chose qu'ils vont voir au premier rendez-vous. Mm-hmm. Il le sait là, justement qu'à l'annonce, la personne va se désorganiser, que ça va être très, très perturbateur pour lui. À ce moment-là, le médecin, lui, il se doit tout de même d'accompagner, de dire le diagnostic au proche aidant, parce que c'est vraiment important, même au niveau médical, mm-hmm. que le proche aidant soit vraiment au courant pour que le proche aidant ait déjà une longueur d'avance sur ses connaissances de la maladie pour vraiment s'attendre à qu'est-ce qui va arriver, mm-hmm. de pas toujours attendre d'avoir les deux pieds dedans là, tu sais, pour vraiment de pouvoir anticiper les choses qui vont venir là. C'est vraiment quelque chose de très bénéfique là, pour les proches aidants.
Et là-dessus, Nancy, on peut ajouter que les gens peuvent toujours vous téléphoner, peuvent toujours aller vous voir aussi s'ils ont des questions. Bon, c'est quoi un mensonge thérapeutique? Est-ce que je suis rendu là avec mon aidé? Puis il y a aussi la Société Alzheimer qui est une excellente ressource pour les personnes qui ont la maladie.
Effectivement. Fait que les gens peuvent venir nous voir. Nous, on donne beaucoup aussi le numéro de référence de la Société Alzheimer, mais comme le siège social est à Gatineau, souvent les gens, c'est un petit peu plus compliqué.
Vous êtes en première ligne.
Ouais, c'est ça. Les gens, c'est un petit peu plus compliqué de se déplacer s'ils veulent rencontrer les gens en vrai, là, c'est les gens en présentiel. Mm-hmm. Mais ils font beaucoup aussi de services aussi au téléphone. Il ne faut pas hésiter d'appeler. Là.
Et on va inviter les gens à réentendre cette chronique au CHGR.fm s'ils veulent avoir plus de détails là-dessus ou qu'il y a des petits détails qui leur ont échappé. Et Nancy, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on voulait ajouter comme ça à la mi-avril là, pour les services de Voix et Solidarité?
Non, bien pour nous, chez nous, tous nos services là, sont revenus en place là, comme à l'habitude avant la fameuse pandémie. Là.
Et on peut aller vous voir au 248 rue Cartier ou vous joindre par téléphone.
Au 819-441-1001.
Nancy Boudria, bonne semaine à toi et à toute l'équipe.
Merci, bye-bye.